Laudetur Jesus Christus.
C'est un déplacement inédit. Les chefs de la diplomatie française et allemande étaient à Damas ce vendredi. Ils plaident pour favoriser une transition pacifique du pouvoir au service des Syriens. La présence française s'allège en Côte d'Ivoire et une base militaire est rétrocédée. Nous retrouverons notre correspondant à Abidjan. Dans ce journal également, un premier champ de gaz exploité en mer par le Sénégal et la Mauritanie. Et les difficultés des églises en Haïti, nous l'entendrons, elles ne sont pas épargnées par les violences.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à toutes et à tous. Les chefs de la diplomatie française et allemande étaient à Damas ce vendredi pour rencontrer le nouvel homme fort de la Syrie, le chef du groupe islamiste radical Ayat Tahrir al-Sham. Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock ont été reçus au palais présidentiel à Beyrouth, Paul Ralifet.
Les chefs des diplomaties françaises et allemandes sont les premiers responsables occidentaux de haut rang à se rendre à Damas pour rencontrer le nouvel homme fort de Syrie, Ahmad al-Sharaa, de son nom de guerre, Abu Mohammed al-Julani, depuis la chute du régime de Bachar al-Assad le 8 décembre. Cette visite marque la volonté des puissances occidentales d'ouvrir une nouvelle page avec la Syrie et avec Abu Mohammed al-Julani, groupe islamiste qu'il dirige, placé sur les listes des organisations terroristes des Nations Unies et de plusieurs autres pays. Jean-Noël Barrot avait auparavant visité les locaux de l'ambassade de France à Damas, fermée depuis 2012, puis rencontré des représentants religieux des communautés chrétiennes en Syrie. À cette occasion, le chef de la diplomatie française a assuré que la France apportera son soutien aux acteurs de la société civile et aux chrétiens de Syrie. Il a aussi proposé aux nouvelles autorités syriennes l'envoi d'experts en armes chimiques et proposé une assistance technique et juridique pour la rédaction d'une nouvelle constitution dans le pays. Avant son départ pour Damas, Jean-Noël Barrot avait écrit sur le réseau X que la France et l'Allemagne souhaitent favoriser une transition pacifique et exigeante au service des Syriens et pour la stabilité régionale. Paul Khalife, Beyrouth. RFI pour Radio Vatican.
Le directeur de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza, toujours introuvable, une semaine après son arrestation par Israël. Selon la chaîne de télévision américaine CNN, il serait détenu avec d'autres médecins dans une prison dans le sud israélien, une prison surnommée le Guantanamo d'Israël. Israël qui s'oppose à la réouverture de cet hôpital à Gaza. Selon l'ONU, le système de santé à Gaza est au bord de l'effondrement total à cause des bombardements israéliens incessants. C'est le barrage de la discorde entre l'Iran et l'Afghanistan, un projet de Kaboul sur la rivière Hariroud qui, selon Téhéran, réduirait le débit de l'eau qui arrive en Iran. Les deux pays partagent 900 km de frontières et les droits relatifs à l'eau sont un motif de friction régulier. L'Éthiopie veut finalement collaborer à une nouvelle force de l'Union africaine en Somalie. Le contingent doit se déployer dès janvier pour lutter contre les insurgés islamistes radicaux Shebab. La participation de l'Éthiopie à cette force pour soutenir le gouvernement de Somalie marque finalement un réchauffement entre les deux pays, alors que les relations s'étaient tendues il y a environ un an quand Addis Abeba avait signé un accord maritime avec la région séparatiste de Somalie, le Somaliland. L'armée française se retirera également de Côte d'Ivoire. L'annonce a été officialisée par le président ivoirien Alassane Ouattara, qui a aussi annoncé la rétrocession de la base française du 43e bataillon d'infanterie de la marine de Port-Boué à l'armée ivoirienne, et ce, dès le mois de janvier. Plus de détails avec à Abidjan, Mohamed Lamine.
Ce retrait de l'armée française de Côte d'Ivoire avait été évoqué pour la première fois publiquement en juillet dernier par le ministre ivoirien de la Défense dans un magazine. Le président ivoirien l'a donc officialisé dans son discours du Nouvel An pour lui donner une solennité particulière. Nous devons être fiers de notre armée dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé d'un retrait concerté et organisé des forces françaises, a déclaré Alassane Ouattara, ajoutant que le camp du 43e Bima, bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier. Une grande partie des forces françaises et leur logistique ont déjà quitté la dite base créée dans les années 70. Le président ivoirien a décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas d'Aquin, tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Le futur camp Ouattara-Thomas d'Aquin va abriter, selon de nombreuses sources, quelques bataillons de l'armée ivoirienne, dont celui des commandos parachutistes. Des centres de communication et d'entraînement y seront également implantés. Déjà en septembre dernier, le camp de Lomo Nord, un centre d'entraînement de l'armée française au centre de la Côte d'Ivoire, avait été rétrocédé à l'armée ivoirienne dans le cadre de ce retrait après un siècle de présence. Abidjan, Mohamed Lamine, Radio Vatican.
Les Africains détenteurs d'un passeport pourront désormais se rendre au Ghana sans visa. C'est une des dernières décisions du président sortant ghanéen Nana Akufo-Addo. Après deux mandats de suite, lundi prochain, c'est John Mahama, le candidat de l'opposition, vainqueur de la présidentielle de décembre, qui prendra les rênes du pays. C'est une première entre le Sénégal et la Mauritanie. Les deux pays ont officiellement ouvert un premier puits commun de gaz. Il se trouve au large du Sénégal. Un projet transfrontalier ambitieux. À terme, il devrait permettre de produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Et ce puits marque l'entrée des deux pays dans le cercle restreint des nations productrices de gaz. À Dakar, Abdoulaye Diédio.
C'est avec une note positive que le Sénégal et la Mauritanie ont entamé l'année 2025 en officialisant leur entrée dans le cercle restreint des nations productrices de gaz à la suite de l'ouverture du premier puits de production de gaz tiré du projet Grand Tortue Ameyim. Cet ambitieux projet, jeté apporté par la multinationale britannique BP en partenariat avec le géant américain Kosmos Energy et les gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie, puise ses ressources dans des réservoirs situés à 120 km au large des côtes des deux pays. L'ouverture de ce premier puits du projet GTA marque le couronnement des opérations techniques et ouvre la voie au démarrage de la commercialisation du gaz. Se réjouissant de ce projet transfrontalier, le ministre sénégalais de l'énergie, du pétrole et des mines, Biram Souley Diop, d'affirmer que l'ouverture de ce puits de gaz matérialise la vision commune avec la Mauritanie de faire du projet GTA un modèle de collaboration énergétique réussi. Son homologue mauritanien Mohamed Ould Khaled parle, lui, d'un partenariat qui démontre la capacité des deux pays à atteindre des objectifs ambitieux et durable. A noter que le bloc GTA abrite des réserves estimées à 425 milliards de mètres cubes de gaz, une quantité pouvant garantir une production initiale de 2,5 millions de tonnes par an de GNL. Abdoulaye Diédio, Dakar, Radio Vatican.
Une scène qui illustre la violence en Haïti. On apprend qu'en début de semaine, un chef de gang haïtien arrêté en République dominicaine et remis par la police aux autorités haïtiennes a été lynché par une foule armée de machettes. À peine avait-il mis le pied sur le pont qui relie la République dominicaine à Haïti. Il était accusé d'assassinat de policiers et de civils. La violence protéiforme d'Haïti qui n'épargne aucun secteur. Sur place, l'église reste présente, mais les religieux sont aussi de plus en plus victimes des gangs. Le père Germain Clairvaux, directeur du service jésuite pour les réfugiés en Haïti, revient avec nous sur les difficultés des églises sur place. On l'écoute.
L'église aussi en Haïti est souffrante. Il y a plein de paroisses à Port-au-Prince qui ne peuvent plus fonctionner. Il y a des prêtres qui sont obligés de laisser des communautés parce que les communautés là ne sont plus vivables. Il n'y a plus rien qui reste. Parce que ces gens sont obligés de partir, de laisser les zones, la zone, parce que les gangs ont tout brûlé. Donc ça veut dire que l'église même, à l'intérieur du pays, est souffrante. C'est une église qui n'a pas beaucoup de moyens, et puis elle va vivre à l'instabilité. Il y a des écoles qui sont des écoles catholiques, par exemple, qui accueillent des enfants maintenant, qui doivent aller dans d'autres écoles, dans d'autres établissements, d'autres écoles, pour demander pour que ces enfants puissent passer des examens, parce que les lieux où leur centre était, ils ne peuvent plus y aller, ils ne peuvent plus fonctionner, des sœurs ou des prêtres. C'est une situation critique, très extrêmement critique, où il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Chacun essaie de voir à sa manière comment y répondre, mais ce n'est pas facile.
Toute information pour le retrouver vaut 100 000 dollars au Venezuela. Exilé en Espagne, l'opposant au président vénézuélien est attendu ce soir en Argentine. Edmundo González Urrutia rencontrera demain le président argentin Javier Milei. L'Argentine qui ne reconnaît pas la victoire du président sortant Nicolas Maduro lors de la présidentielle, c'était en juillet dernier, tout comme plusieurs pays de la région et des États-Unis. Et enfin, les prix des denrées alimentaires dans le monde ont baissé de 2% l'année dernière. Selon des chiffres publiés aujourd'hui par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, les prix du blé et du sucre ont notamment sensiblement baissé, compensés par la hausse de denrées comme les huiles végétales ou les produits laitiers. Merci de votre fidélité. Demain à 18h, vous retrouverez en direct notre émission hebdomadaire Vox Mundi. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end.